France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, émission préparée avec Fanny Richer, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Anouk Millot et Louise Cognard. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Noé Chabanne. Cette semaine, Culture Monde s'offre un pas de côté littéraire et demande aux écrivains leur part de vérité sur le monde. Après Toufat Moutar, écrivaine franco-comorienne pour son livre « Choses qui arrivent » et avant de recevoir demain l'écrivaine algérienne Kauter Hadimi pour « La joie ennemie », nous sommes pendant près d'une heure ce matin avec Momchil Milanov, romancier bulgare. Son premier roman, « Le ministère des rêves », aux éditions de l'Argonaute, c'est une bascule autoritaire vue par un enfant.
Les deux garçons arrivèrent chez le marchand de journaux. Mich se pencha vers la fenêtre et scruta à travers la vitre poussiéreuse. On ne pouvait jamais savoir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. La poussière, la cendre, la fumée de cigarettes et l'odeur de journaux plus que défraîchis constituaient un alliage d'une opacité indestructible. C'était ou bien la matière primaire, ou bien ce qui demeurerait du monde après sa fin, ou les deux. « Je peux avoir les nouvelles du soir ?» « Il n'y en a pas », répondit le vendeur avec un large sourire dévoilant des dents jaunies. « Et le bon comte ?»« Ni bon comte, ni bon baron. Tout a été vendu il y a une heure. En un rien de temps. »« Comment ça ?» demanda Mich, déconcerté. « À cause du baron Nould, vous n'êtes pas au courant ?» Au même moment, au-dessus de leur tête, un coup de tonnerre effrayant retentit et deux avions de chasse passèrent en volant très bas. Quelqu'un s'écria « Le ballon ! Le baron Nould arrive ! »
C'est une machine volante qui ressemble à quelque chose entre une montgolfière et un dirigeable et qui évolue lentement dans les ténèbres au-dessus de la ville de Greifswald. Une fois au-dessus de la place centrale, elle restera là, à peine visible à travers la brume, attachée à la terre par une corde épaisse. Tout a commencé avec des chaussures qui disparaissent les unes après les autres, les bottes, les guêtres, les tennis, les galoches, les chaussures officielles et même les pantoufles, puis des brouillards atypiques pour la saison et de violents maux de tête. À Greifswald, les policiers sont bien gras et ils ne font rien. Chacun sent en lui comme le pressentiment confus d'un danger. Les rêves des habitants deviennent de plus en plus vagues, comme s'ils s'estompaient. Mais le petit Stern et son copain Mich, ce qui les intéresse là tout de suite, c'est d'aller chez Gianni, qui fait les meilleures glaces de la ville. Bonjour Momchil Milanov.
Bonjour Julie.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Culture Monde. À quoi il ressemble d'abord le baron Nould dans votre tête à vous? Parce que quand son dirigeable arrive au-dessus de la ville, personne ne l'a jamais vu.
Oui, c'est un homme assez mystérieux et qui a des plans ambitieux pour la ville et ses habitants. Pour moi, il ressemble à quelqu'un, physiquement déjà, à quelqu'un de l'époque, d'une époque précédente, du début du XXe siècle, quelqu'un qui porte un chapeau, comme vous dites en français, haut de forme, quelqu'un qui a un moustache particulière, mais bon, ce sont des détails, des traits physiques. Quand on écrit, on imagine des choses. Chacun, je pense, est libre, et surtout, j'insiste sur la liberté de lecteur d'imaginer le baron Nould, quelqu'un beaucoup plus moderne peut-être, qui a dépassé cette époque, mais je pense que voilà, il peut prendre des formes assez diverses et variées.
Personne à Greifswald ne savait qui c'était, ni ce qu'il voulait, ni combien de temps il demeurerait dans sa résidence volante. Mais comme il arrive souvent, écrivez-vous, le fait qu'une personne soit riche poussait les gens à être curieux et à la croire. Il ressemble un peu aussi, ce baron Nould, à un personnage du Petit Prince, le propriétaire, cet homme qui passe son temps à recompter les millions d'étoiles qu'il prétend posséder et qu'il place à la banque. C'est une de vos aspirations, le Petit Prince ?
Certes, absolument. Je pense quand même que cette phrase est vraiment Exupéry, en sens que j'ai dû être sous l'influence d'Exupéry, parce que oui, cette phrase est venue naturellement. Après, on se rend compte que oui, elle décrit quelque chose qui, on le voit, je pense qu'on n'a même pas besoin de beaucoup d'explications pour voir comment ça marche, même si je pense qu'on va passer un certain temps
à en parler. Ce propriétaire dans Le Petit Prince, il prétend n'avoir été dérangé que 3 fois dans sa vie, par un hanneton qui faisait un bruit de tonnerre, par une crise de rhumatisme et par Le Petit Prince. Est-ce que Le Petit Stern, c'est un Petit Prince dans votre livre ?
D'une certaine façon, si on prend compte la curiosité, intelligence naturelle, parce que le petit Stern, il a à peine 8-9 ans, il est très petit, mais déjà il est mûr, il possède une sagesse, il est peut-être même plus mûr que ses parents. Ça, c'est, je pense, c'est une des tensions dans le roman.
Il y a des choses que lui comprend que ses parents ne comprennent pas, et vice-versa. On en parlera. Qui comprend quoi dans cette affaire ? Même pas sûr que quiconque y comprenne quelque chose. Donc le petit Stern, qui demande d'ailleurs à un moment à son père de lui dessiner non pas un mouton mais un dragon, c'est un personnage de votre roman Le Ministère des Rêves, traduit du bulgare par Marie Vrina et paru cette année aux éditions Les Argonautes. Vous êtes bulgare, Momchil Milanov, même si vous vivez aujourd'hui à La Haye où vous êtes juriste à la Cour internationale de justice. Dans votre livre, qui est votre premier roman, il n'est jamais dit que l'histoire se situe en Bulgarie, on est en Bourlandie. Alors où est la Bourlandie, Momchil Milanov, où est Greystadt?
Bon, déjà, je pense que je préfère vraiment laisser le flou, parce que je préfère vraiment laisser au lecteur décider pour lui-même où est Bourlandie, parce qu'elle revêt plusieurs formes. Mais c'est vrai qu'une des interprétations les plus naturelles, que c'est une version de Bourlandie. Il y a beaucoup de références, plus ou moins cachées. Donc, pour le lecteur, par exemple, bulgare, il va apercevoir certaines choses, mais je voulais pas me limiter dans un contexte bulgare ou une époque particulière, parce que je pense que certains des thèmes et des choses qui m'intéressaient pendant la rédaction de ce texte vont bien au-delà du contexte bulgare. C'est une région assez conséquente, assez importante, toute l'Europe centrale et orientale, avec toutes les difficultés définir ce qui est l'Europe centrale et orientale, mais donc Greystadt peut très bien être Sofia,
la capitale bulgare.
Voilà, tout à fait. Peut-être aussi Riga ou à Berlin ou Vienne à un moment historique, mais je voulais pas écrire un roman historique parce que ça signifie que on signale au lecteur que ce sont des choses qui sont déjà au passé, c'est-à-dire des choses qui sont d'une certaine façon, comment dire, désarmées, et pas des choses qui peuvent être d'actualité ou même dans le futur.
Mais vous essayez de brouiller les pistes là, parce que ça ne peut pas être Vienne, c'est impossible, puisqu'il est écrit à un moment dans le livre que Babadzou, la grand-mère du petit Stern, a fait une fois un voyage en train jusqu'à Vienne. Ça ne peut pas être Budapest, parce qu'elle est allée à Budapest, et elle n'a jamais vu Berlin, donc ça ne peut pas être Berlin. C'est vrai qu'il y a, les lecteurs bulgares sont avantagés par rapport à nous, ils trouvent sans doute plein d'indices, Momchil Milanov, de choses ou d'éléments qui font penser à la capitale bulgare Sofia. Le ministère, par exemple, où travaille le père du petit Stern, c'est un bâtiment qui se situe juste en face de là où il vit, ce petit garçon, et dont personne ne sait qu'il abrite aussi le ministère des rêves, on va en parler. Et bien, vous le décrivez comme un bâtiment avec ses 2 tours et sa coupole au milieu, dotée d'une pendule ronde, tel l'œil d'un cyclope, son toit en zinc et ses impeccables rangées de fenêtres. Il paraît qu'il y a un ministère à Sofia qui ressemble un peu quand même à ce bâtiment.
Tout à fait. En fait, certains des lecteurs, en fait, il y avait des versions différentes. Certains ont pensé que c'était tel bâtiment, d'autres. Moi, j'avais en tête un bâtiment très particulier. C'est le ministère de l'agriculture qui est construit quelque part dans les années 20 ou 30, donc l'époque d'entre-deux-guerres. qui est un très joli bâtiment, mais il y a des choses dans le quartier qui sont bien évidemment inventées, parce que par exemple face à ce joli bâtiment actuellement, il y a un autre bâtiment absolument affreux que je déteste, mais voilà, c'est la réalité. Mais heureusement qu'en littérature on peut faire des choses différentes.
C'est ce bâtiment où tous les soirs, même le dimanche à 21h, il y a toujours une fenêtre au dernier étage qui reste éclairée. Dans votre roman, on comprendra tout à l'heure pourquoi et qui est toujours dans ce bureau éclairé le soir, même le dimanche. Vous parlez d'un parc du Nord aussi dans votre livre qui existe à Sofia, le marché des femmes, allusion au grand marché de Sofia, l'antiquaire de la rue Iskar, qui existe, un arrondissement à l'est de la capitale bulgare, etc. etc. Les noms des personnages, en revanche, n'ont pas grand-chose de bulgare.
Pas du tout. Ouais, la plupart des noms sont des noms alémaniques, et comme un lecteur avait mentionné lors d'une rencontre en Allemagne, que parfois quand on ne sait pas exactement, on préfère situer le roman dans un espace neutre et on ne souhaite pas dévoiler beaucoup. Bah, les noms alémaniques aident beaucoup parce que les noms sont parlants, mais en même temps, ouais, ils le montrent, mais aussi ils cachent. Et c'est vrai que presque chaque nom dans ce roman est un nom alémanique qui a une signification très concrète, qui est parfois liée au sujet. Donc les noms, je pense, ont une importance, et pour moi ça m'aidait beaucoup. Je pouvais pas imaginer d'écrire un texte où tous les noms étaient des noms, par exemple, bulgares, slave, parce que pour moi ce serait être trop près du sujet, et j'avais besoin de mettre une distance, parce que je peux voir mieux, je pense, l'histoire et le sujet.
Il y a par exemple Von Kugler, qui est le farfadet chat-renard ou renard-chat. Il y a le général Bösenwillen, le colonel Luger. Lugen en allemand, c'est mentir, c'est tricher, l'attente Straff, etc. Et alors ce ballon dirigeable qui prend place au-dessus de la ville, le bâtiment du Parti communiste en Bulgarie pendant les dernières années de la période communiste, il avait quand même un peu une tête de ballon dirigeable, non ?
Oui, c'est vrai, c'est un des bâtiments les plus reconnaissables, je pense, en Bulgarie, c'est vrai. Mais je l'avais pas, je n'avais pas en tête nécessairement, vous savez, dans ma tête, ce bâtiment qui est déjà, ça présente un intérêt pour les touristes, mais pour moi, je ne l'ai jamais en tête. Pour moi, c'est bizarre, mais il n'existe pas. Oui, dans ma tête. Il est quelque part, déjà, il est très loin de là où j'habite. Je passe, on peut le voir parfois en train, c'est un bâtiment assez bizarre.
Il n'a pas été en service très longtemps, ce palais de Buzluja. Il a été inauguré en 81, abandonné après 89, après la chute du communisme. Alors vous aviez 3 ans en 89, vous êtes né en 86. Ouais. Vous êtes né l'année du passage de la comète de Halley. Ouais. Et c'est justement... Christina, la maman du petit Stern, elle aime dire que son fils est né l'année du passage de la comète de Halley. Est-ce que ça veut dire que le petit Stern est né en 86? Est-ce qu'elle fait des allers-retours, cette comète, quand même?
Cette comète apparaît chaque 75 ans. Et donc, il est possible... Moi, je voulais laisser ma porte un peu ouverte vers la possibilité que les événements aient lieu peut-être lors du passage précédent.
1910, c'était la panique générale, d'ailleurs.
Voilà, le passage suivant, qui est, je pense, prévu 2061.
Voilà. L'été 2061, c'est déjà quand elle repassera. Donc on ne sait pas non plus quand est né ce petit Stern. Alors on ne sait pas vraiment où on ne sait pas vraiment quand ça se passe, parce qu'en plus, si le petit Stern était né en 86, comme il a 7 puis 8 ans, je crois, dans le livre, ça voudrait dire qu'on est en 93-94. Donc chacun projette ce qu'il veut, ou le temps est circulaire, mais c'est une autre histoire et on y reviendra, justement. Donc ce ballon dirigeable, lui, il ne dirige rien du tout. Quant à lui, du moins pour l'instant, c'est une menace. Pourquoi personne ne coupe la corde ?
Peut-être la corde est... Vous savez, les choses les plus visibles, parfois, restent un peu à l'écart, n'est-ce pas ? Donc, il y a des choses qui sont pensables, qui sont impensables. Et ce sont, je pense, les règles du jeu. C'est une question foncièrement politique, je pense. Mais c'est vrai, c'est une très bonne question.
C'est vrai, tout le monde a un peu peur, tout le monde sent que c'est une menace, tout le monde marche recroquevillé en regardant par terre, tout le monde a peur de ce que vous appelez les bicéphales, qui sont les ouais. policier. D'ailleurs, ouais. pourquoi bicéphale ?
Bicéphale, parce que c'est un symbole qui vient d'une autre époque. Vous savez, l'aigle bicéphale était un symbole impérial de plusieurs empires. Autriche-Hongrie, Russie, j'imagine dans le deuxième Reich allemand aussi. C'était une figure assez parlante. Bien sûr, c'est pas les hommes qui sont bicéphales. Mais, d'ailleurs, il y a une phrase dans le roman qui est assez directe à cet égard. Mais non,
c'est qu'ils sont pas, ils sont peut-être bicéphales, mais ils ont qu'un demi-cerveau.
Voilà,
c'est
voilà,
ça, quelque chose
voilà,
comme ça.
Voilà, exact, exact.
Mais parce que ces bicéphales, il faut les imaginer donc armés, en uniforme gris, au regard vide. Ils sont dirigés par un homme que vous appelez Storm. Mmh. Les hommes de Storm vont commettre une bêtise et nous, on ne le comprendra que dans une semaine, dit le père de Mich, donc le meilleur ami du petit Stern, qui a remarqué que les tirages des journaux avaient diminué, comme si quelqu'un voulait que les gens demeurent ignorants. C'est vrai qu'il y a comme ça partout des petits indices que quelque chose se prépare et les bicéphales se montrent de plus en plus ouvertement dans les rues à mesure que les jours passent. Alors à quelle menace de coup d'État cette menace-là sur Greifswald peut-elle nous faire penser ? D'accord, Momchil Milanov, vous ne voulez pas vraiment situer votre roman en Bulgarie. Néanmoins, c'est un pays, la Bulgarie, qui fait partie de l'Union européenne, qui va entrer dans la zone euro en janvier, là, le 1er janvier, et qu'on connaît toujours très mal ici en France. Donc c'est l'occasion quand même de raconter une certaine histoire de ce pays. Donc à quelle menace de coup d'État vous avez pensé quand vous avez écrit ce livre ?
Quand j'ai dit que l'action pouvait, le roman pouvait très bien se passer lors du passage précédent de la comète Halley, je voulais dire que il y a un contexte qui est bien sûr connu pour les Bulgares, mais pas pour le reste du monde. C'est qu'en espace de 21 ans, donc en 1923, 1934 et 1944, il y a eu 3 coups d'État. Et plus ou moins violent, plus ou moins réussi, mais surtout avec des conséquences graves qui continuent en fait à produire des effets dans la société. D'une certaine façon, l'histoire est c'est que du passé, mais c'est pas que du passé. C'est quelque chose qui continue à influencer notre imaginaire individuel et collectif. Et en fait, certains des personnages historiques qui ont participé activement dans l'organisation de ces coups d'État étaient les mêmes. Et donc, comment ne pas avoir le sentiment que l'histoire se répète, et même vraiment de manière très, très dense. C'est 21 ans, c'est pas beaucoup. Et bien sûr, pour ne pas, on peut faire des allusions aussi à ce qui s'est passé en 1989, même si pour moi, je veux dire, c'est pas un coup d'État, c'est une transition démocratique, c'est
peut-être... On en parlera.
Voilà, on peut en parler. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà.
Oui, mais ce coup d'État communiste qu'on appelle coup d'État en 44, il faut resituer très, très rapidement historiquement. Le 5 septembre 44, les soviétiques qui avaient pénétré déjà en Roumanie déclarent la guerre à la Bulgarie. Le gouvernement bulgare demande immédiatement l'armistice. L'armée rouge occupe le pays et ensuite c'est au tour de la résistance intérieure, la résistance communiste de se soulever. Le front de la patrie qui regroupait tous les opposants au régime pro-nazi, puisqu'il faut rappeler qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, la Bulgarie a été dirigée par un admirateur d'Adolf Hitler, Bogdan Filov, et que les Allemands ont occupé le pays et exploité ses ressources. Ce front de la patrie prend le pouvoir le 9 septembre 44, organise un gouvernement de coalition au début relativement ouvert, puis de moins en moins. À chaque fois qu'il y a eu comme ça un changement de régime en Bulgarie, et de nature à chaque fois très, très différente, les contextes sont toujours les mêmes. Comme dans le livre, les rayons des magasins sont vides, les coupures de courant, tous ces indices que vous disséminez, ça a toujours été comme ça, ça s'est toujours passé comme ça.
Bon, bien sûr, j'étais pas là-bas, mais je peux imaginer, c'est ça, littérature nous aide à pénétrer des espaces ou des temps où on ne pouvait pas être présent, heureusement ou malheureusement, mais c'est un événement profondément traumatique, c'est vrai. Donc la Bulgarie en fait a commencé la guerre en tant qu'un pays, un état neutre, puis en 41 elle est passée dans le camp donc de l'Axe, et puis en 41 de nouveau, et du point de vue même juridique ou diplomatique, c'était un désastre, parce qu'au début de septembre, tout à coup, en espace de quelques jours, la Bulgarie était en fait en état de guerre, donc, du point de vue juridique, avec tout le monde, donc avec les alliés et avec l'Axe. parce qu'on venait de déclarer, bien sûr, avec le, après le coup d'État, une guerre à l'Allemagne et de ses alliés. Donc, c'est un absurde juridique, mais ça a eu lieu.
Alors voilà le contexte dans lequel se situe votre roman. Les rayons des magasins sont vides partout et c'est peut-être Torbalan qui est passé par là, ce personnage du folklore bulgare qui se balade avec un grand sac dans lequel il jette les enfants qui ne sont pas sages. C'est vrai qu'il y a aussi toute cette part de fantastique dans votre roman. Le ministère des rêves qui a donné le titre à votre livre, dans sa version française en tout cas, c'est ce ministère secret auquel un jour une créature conduit le jeune Stern. Le petit garçon est sur son lit, il voit apparaître à la fenêtre un farfadet qui ressemble à un chat et à un renard, qui l'amène par des passages secrets au bureau du directeur de la direction des rêves, décidément la bureaucratie, le directeur Funès ou F. Unès. Quelle est la mission qu'il se donne, ce monsieur ?
Bon, il occupe un rôle assez important dans la bureaucratie du ministère, et vous avez raison, apparemment il a de la bureaucratie partout. Cette fois-ci, bon, on espère qu'elle est un peu plus bienveillante et qu'elle fonctionne mieux, mais je pense que c'est ça le problème, qu'il y a quelque chose qui se passe au sein du ministère qui ne va pas, et le jeune Stern va participer activement.
Donc, produire des rêves et les protéger, voilà la mission de ce ministère. De quoi rêve-t-on sous un régime autoritaire, totalitaire ? De quoi rêve-t-on même quand la menace sourd ? Dans les années 30, la journaliste allemande Charlotte Bérard avait commencé à récolter les rêves de ses compatriotes.
Je raconte une blague interdite, mais je la raconte mal, par précaution. Si bien qu'elle n'a plus de sens.
Par précaution, si bien qu'elle n'a plus de sens. Plus de sens.
Je rêve que je me réveille au milieu de la nuit. Je vois que les deux angelots accrochés au-dessus de mon lit ne regardent plus en haut, mais en bas, et m'observent attentivement. Je suis si effrayé que je me glisse sous mon lit.
Extrait du livre de Charlotte Bérard, Rêver sous le Troisième Reich, lu ici par Anne Stéphens et Renaud Bertin, et diffusé dans La Fabrique de l'Histoire en 2017. De quoi rêvent les habitants de Greistadt, Mopchil Milanov?
Bon, déjà, j'aimerais commencer par exprimer, c'est pas une surprise, mais j'étais très heureux de voir que Tiphaine Samoyo, dans sa rubrique dans Le Monde, elle avait commenté, elle avait mentionné explicitement Charlotte Bérard, sur laquelle donc j'étais tombé au moment où je rédigeais le mystère, ouais, le livre, et ça m'a tellement fasciné, parce que j'ai jamais vu une chose pareille, un projet pareil. Donc, sans précédent, j'espère qu'actuellement, il y a quelqu'un qui est en train de prendre des notes et d'écouter les rêves de ses amis. Je sais que quand j'étais petit, on avait l'habitude de raconter ses rêves, y inclut les adultes surtout, pas tellement les enfants. Donc, c'était tout à fait normal de le faire, de partager ses rêves et de commenter ou d'utiliser, vous savez, le café, ce qui reste du café, donc après
le marc de café,
exact, pour voir ce qu'il y aura au futur, c'était très tout à fait naturel.
Et donc à quoi peut-on imaginer que les habitants de Greistadt rêvent, parce que les générateurs de rêves au ministère des rêves sont très silencieux. Au moment où le petit Stern visite le ministère, ils n'émettent aucun bruit, ni bourdonnement, ni rappement, rugissement ou vacarme digne de leur dimension gigantesque. Qui a intérêt à ce que les machines ne marchent pas ?
Très récemment, quand j'étais à Paris la dernière fois, il y avait un enfant. J'ai eu une rencontre avec des étudiants, et un étudiant m'a demandé est-ce qu'il y a une différence, est-ce que les adultes et les enfants rêvent différemment. Et j'étais très pris par, vraiment, c'était une surprise.
Pris de court par cette
voilà
question.
Voilà, parce que je pense que là, on peut faire très bien une thèse à ce sujet. Je ne pense pas que les adultes et les enfants peuvent rêver différemment. C'est juste que les adultes ont plus d'expérience, mais les enfants ont toute la liberté. Et je pense que rêver, c'est être libre. Et dans nos rêves, c'est notre dernier refuge.
Sauf que dans votre roman, les adultes ont la faculté de tirer d'un petit rien des conclusions erronées, c'est ce que dit le petit Stern. Moi, c'est vrai que les adultes, c'est un truc très surévalué. Donc les enfants ont un regard très différent sur ce qu'il est en train d'advenir. Le petit Stern aussi se réveille régulièrement en poussant des cris après des rêves étranges où se mêlent des chiens perdus dans un appartement, une famille réunie, tante Emma qui fait le tour des invités sur la pointe des pieds en prenant des photos avec un appareil impressionnant, le jouet favori de Stern, le lapin minique, et puis à mesure que le repas avance, des convives disparaissent, d'autres changent de visage, une femme vêtue d'une robe blanche, mais on dirait qu'elle est en noir, apparaît, et puis la mère de Stern qui se coupe les pointes de cheveux, et des juges qui font le procès de Stern. Alors ils font le procès où il est témoin, parce qu'ils le soumettent à la question, est-ce que tu préfères Jules Verne ou Alexandre Dumas, qui tu choisirais entre Cook et La Pérouse, qui sont ces juges effrayants dans le rêve?
De point de vue procédural, oui, je pense que le petit Stern, il occupe un rôle un peu spécial, c'est vrai, parce que ouais, on n'explique pas très bien, mais je pense que ça décrit un moment très intime, et pour moi c'est un point très important que le roman combine à la fois donc des aspects très liés au public, mais aussi très liés à un espace très intime, l'espace privé d'un enfant, d'une famille, et la tension entre les deux, l'interaction entre ces deux des espaces, le public et le privé, était une des choses qui me poussait le plus et me stimulait, mais me mettait vraiment aussi hors de ma zone de confort. Et écrire ce roman était vraiment sortir de ma zone de confort. Je ne sais pas si en principe, on le dit, je me souviens que Thomas Mann avait dit la fameuse phrase que voilà, écrire pour les écrivains, c'est plus difficile que pour les autres, les gens ordinaires. Mais pour moi, cette fois-ci, c'était très difficile. Et une des parties, c'était des raisons pour lesquelles c'était ça, c'était précisément parce qu'il y a un aspect très privé, un enfant qui est mis dans une situation très difficile, qui habite dans une ville, mise dans une situation très difficile.
Alors le directeur de la direction des rêves qui s'appelle F. Ounes, si on enlève le point, ça donne en bulgare l'homophonie d'une expression qui signifie en état d'endormissement. Mais Founès, c'est aussi un personnage de Borges, ouais, dans Funès ou la mémoire.
La politique m'intéresse personnellement fort peu. C'est-à-dire, j'étais contre tout le totalitarisme. J'étais contre le nazisme, je suis contre le communisme, j'étais contre le dictateur que nous avons su à subir, mais tout cela, c'est des convictions personnelles, elles ne sont même pas très intéressantes pour moi. C'est un peu comme dire, par exemple, que je ne suis pas en faveur du cannibalisme, non. Je le déclare, mais je ne peux pas en parler très longtemps.
Borges, interviewé par Georges Charbonnier en 1965 sur France Culture. Et vous, Momchil Milanov, que peut l'écriture, la fiction, le roman, que ne peut pas la politique?
Ah, c'est une très belle question. Peut-être il faut commencer un tout petit peu plus loin, d'où vient la littérature. Et je pense qu'elle a deux sources. La première, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut dire à personne. Nos peurs les plus secrètes, on ne peut pas les dire peut-être parfois ni à nos parents qui sont censés savoir tout, ni à nos meilleurs amis, ni à notre partenaire, à personne. Par contre, ou des peurs de désir, vous savez, et parfois, on peut, la littérature donne cette possibilité vraiment de... Quand j'avais en tête le personnage d'un film dont j'ignore le
titre en français.
Le titre en français, In the Mood for Love, du
on l'a appelé comme ça aussi, voilà. In the Mood for Love.
Et tout à la fin, vous vous souvenez du film, tout à la fin, il chuchote dans un trou d'un mur du grand temple Angkor Wat. Il dit quelque chose, on ne sait pas exactement ce qu'il dit, mais il le dit d'une certaine façon à l'oreille du monde, à tout le monde et à personne. Et je pense que c'est ce que la littérature fait et aide parfois à transformer.
En Bulgarie, plusieurs écrivains ont dû arrêter d'écrire pendant la période communiste. Certains ont été tués, certains ont été envoyés sur l'île de Béléné, qui accueillait un camp de travail forcé destiné aux opposants. D'autres au Sable Blanc, ces mines au sud de Sofia, où un vieux monsieur rencontré dans un train dans votre roman raconte que son fils a été envoyé. Alors il parle beaucoup à Stern et son père, et puis il s'arrête net et se lève, il sort du compartiment pour fumer. Sa femme l'excuse, depuis que leur fils... Elle omit le verbe, il était toujours comme ça. En Bulgarie, certains ont choisi au contraire de partir. L'écrivain Georgi Markov, qui critiquait le régime communiste, qui a quitté la Bulgarie pour l'Italie, puis le Royaume-Uni, où il a été tué à Londres en 78 par ce qu'on pense être un agent qui lui a injecté du ricin dissimulé dans une pointe dans un parapluie. Quitter le pays, c'était pour lui un acte politique. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on fait de cette liberté retrouvée ?
Ce qui continue à m'impressionner, c'est le fait que, vous savez, même en Bulgarie, on ne fait pas beaucoup attention à ce qu'a écrit Georgi Markov, mais par exemple, il a été tué à Londres, et c'était beaucoup, apparemment plus important. Et c'est dommage, je trouve qu'on tue vraiment un auteur quand on ne le lit plus. Ou bien, il y a certaines personnes, j'exagère peut-être, il y a bien sûr certaines personnes qui font un vrai effort, et je pense que ça vaut la peine, c'est très important, mais il faut... La meilleure façon de commémorer et de rendre quelqu'un toujours d'actualité, c'est vraiment de lire et s'engager, parce que les choses dont il écrit sont toujours d'actualité.
Georgi Markov, qui a essayé de trouver de nouvelles racines quand il s'est exilé. Et à propos de racines, un autre écrivain bulgare, votre contemporain, plutôt votre aîné, il a 57 ans, c'est Georgi Gospodinov, raconte dans son dernier roman Le jardinier et la mort la façon que son père avait de créer du futur en cultivant son jardin.
Тази тема е много важна за цялата книга.
Ce qui est important, c'est ce que je dis sur les choses périssables. Dans un jardin, tout se décompose, tout périt et renaît. Ce jardin était rempli d'histoires, car c'était un terrain que mon père utilisait pour raconter des histoires. Moi, j'écris des histoires à partir du jardin de mon père.
Georgi Gospodinov, une vidéo Gallimard qui date du mois de novembre. Il fait dans son livre Le jardinier et la mort le récit de la vie de son père, qui, malade, voulait vivre jusqu'au 6 mai, jour de la Saint-Georgi, pour pouvoir entendre le chant du coucou, et qui imagine les fleurs comme des périscopes secrets des morts qui gisent sous elles et qui observent le monde à travers leurs tiges. Le jardin a cette particularité, Momchil Milanov, ce pouvoir de rendre le temps circulaire. Il y a une répétition des saisons, il y a des repousses. Est-ce que dans votre roman aussi, c'est toujours un éternel recommencement? Le petit Stern est une sorte de repousse de son père et de son grand-père Stern.
Vous savez, quand j'ai dit que donc, la littérature a deux sources, et que la première, c'est des choses qu'on peut dire à personne, et la deuxième chose, il y a des pertes qu'on ne peut pas surmonter. Il y a tout simplement des choses qu'on n'arrive pas à... On ne peut pas se permettre de perdre. Et pourtant, on les perd. Parce que et je pense que Le jardinier et la mort vient de Georgi Gospodinov vient de la même source de l'effort et de la possibilité que la littérature nous offre de surmonter, d'essayer de surmonter la perte d'une manière ou autre. Et bien évidemment, donc dans ce petit roman Le ministère des rêves, ce thème à travers la figure de la grand-mère qui est à la fois donc vivante dans le texte, mais on sait qu'elle venait de décéder, donc c'est un peu
elle est vivante et morte à la fois.
À la fois un peu comme le chat de Schrödinger, du physiciste allemand. Donc elle est présente par son absence, et on peut dire la même chose en ce qui concerne la mère, qui est aussi une figure très très mystérieuse. Mais oui, tout à fait.
Et le père du petit Stern est très absent aussi. C'est un diplomate. Le père de Georgi Gospodinov, cet écrivain qu'on vient d'écouter, c'était également un père absent. Le père absent de l'époque socialiste, réquisitionné par le parti. Vous, Momchil Milanov, votre père faisait de la radio. Oui. Comment est-ce qu'il faisait de la radio, à la fois sous la période communiste, il était déjà présentateur des journaux, je ne sais pas. Ouais. Et surtout dans les années 90, après la chute du mur, et ces années pendant lesquelles vous avez grandi.
Je pense qu'il a commencé quelque part au début des années 70 à la radio. Il a travaillé là-bas pendant à peu près 35 ans, je pense un peu plus. Et il était rédacteur et à la fois, donc, il travaillait dans les émissions. Donc, c'était la voix que je l'entendais souvent les matins. Et c'était une belle chose quand même de se réveiller, de se voir, d'entendre la voix de son père, n'est-ce pas? Donc, oui, ça a marqué mes matins avant l'école.
Ces années 90 aussi, pendant lesquelles vous avez grandi, où il y avait des privations partout, où vous êtes aussi échappé par la lecture.
Vous savez, même je me souviens maintenant, j'ai un souvenir que j'avais oublié depuis longtemps, qu'il a été sanctionné. Il me l'avait dit et j'ai vu des documents quand il a été sanctionné parce qu'il avait dit, parce que ça c'est avant 89, que l'OTAN... il a utilisé l'expression que c'est une organisation de défense, de sécurité collective, mais de défense. Donc, à l'époque, pendant le communisme, vous ne pouviez pas dire ça, bien sûr, parce que pour les communistes,
c'était l'attaque,
c'était l'agression, c'était l'agresseur. On ne peut pas dire ça. C'est le pacte de Varsovie qui devait se protéger. Donc, vous voyez déjà les rapports. Il a été sanctionné. Et il y avait aussi d'autres occasions, mais c'était quelqu'un avec des convictions profondément démocratique et ça m'a tout cela m'a inévitablement m'a marqué.
On sait, c'est un moindre mal sans doute cette sanction par rapport à tous ceux qui ont été des milliers de personnes exécutées, torturées avec ou sans verdict pendant les 40 ans de période communiste. Cette chape de plomb de 40 ans, est-ce qu'elle donne aujourd'hui de l'énergie aux Bulgares pour ne plus jamais que ça se reproduise, pour que si un ballon dirigeable devait se pointer à nouveau au-dessus du pays, eh bien tout de suite couper la corde qui le retient et ne pas la laisser?
Oui, c'est pas facile, bien sûr, parce que dans les années 40, l'élite bulgare a été, je pense qu'on peut le dire, c'est la vérité, elle a été décapitée. Et donc, il fallait recommencer, comme d'habitude, donc table rase, avec la nouvelle idéologie. Ce que je sais à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une sorte d'intolérance. On est arrivé à un niveau d'intolérance contre à la fois la corruption en grande échelle et l'incompétence en grande échelle. Donc les deux se nourrissent mutuellement et on voit déjà depuis très longtemps les effets. À un moment donné, je pense que la société ne peut plus. Et donc j'ai entendu plusieurs interprétations comme quoi les manifestations qui ont eu lieu en fin novembre, début décembre, étaient le geste de la Gen Z. C'était vraiment, je l'ai vu partout dans les médias, très sincèrement, je pense pas que c'est le cas. C'est pas limité à une seule génération. C'est un sentiment qui est vraiment partagé par la société tout entière. Reste à voir comment l'énergie, et ça c'est vraiment, je pense que c'est pas dans notre domaine donc de prévoir le futur, mais reste à voir comment cette énergie va se transformer.
La corruption comme un supra-parti, un parti au-dessus des partis qui subsistent en Bulgarie et contre lesquels ont manifesté par milliers des Bulgares, notamment en novembre, et on va en parler dans le focus, le gouvernement a présenté sa démission. Une nostalgie peut-être, vous citiez Georgi Gospodinov, l'écrivain qui, dans Le pays du passé, un autre de ses romans, parle d'une nostalgie de choses qu'on ne connaît pas. Est-ce que cette nostalgie existe aujourd'hui en Bulgarie ?
Oui, ah oui, oui, oui.
Nostalgie de l'époque communiste, mais aussi de l'époque qui lui précède, l'époque nazie.
Oui, et de l'époque d'entre-deux-guerres, quand il y avait bien sûr tous les bâtiments étaient jolis. On voit les photos noires et blancs des tramways, les boulevards, les foules. Et bien évidemment, je pense que c'est très attrayant de rêver une époque très lointaine, parce que tout cela, on n'a pas de responsabilité, n'est-ce pas? Mais je voulais dire quelque chose d'autre par rapport, en effet,
à la nostalgie.
À la nostalgie.
Plutôt
le projet, vous savez, l'espace politique en Bulgarie, peut-être je vais dire quelque chose qui est très critique, mais je le crois, pendant des décennies, et on le voit d'ailleurs non seulement maintenant en Bulgarie, mais plusieurs endroits, il n'y a pas de vraie politique. Et quand je dis politique, je dis échange d'idées, de projets pour le futur, comment gouverner. Non, il y a l'exploitation de peurs de différents groupes. Et c'est pour ça que le roman, je pense, d'une certaine façon, bien sûr, est une réplique et touche cet aspect, parce que les individus et les groupes sont très manipulables, et la politique, non seulement sert malheureusement à développer la vie en commune, mais aussi à exploiter nos peurs.
Le mystère des voix bulgares, c'est un chœur composé de femmes qui interprètent des chants traditionnels bulgares à l'origine formés dans les années 50 pour la télévision et qui continuent à se produire aujourd'hui. Vous écoutez Culture Monde, c'est le deuxième épisode de notre série Les écrivains racontent le monde aujourd'hui avec Momchil Milanov, écrivain bulgare, même si dans son roman Le ministère des rêves, on ne sait pas exactement où se passe l'intrigue, où arrive et au-dessus de quel pays ce grand ballon dirigeable qui est une menace. Ballon dirigé par le baron Nould. Des barons Nould, il y en a encore aujourd'hui, partout. Il y en a encore aujourd'hui en Bulgarie. C'est un personnage intemporel que cet oligarque qui peut faire penser par exemple à Adelian Pivski.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Le 11 décembre dernier, le premier ministre bulgare Rosen Zhelyaskov présentait la démission de son gouvernement face aux grandes manifestations qui, depuis la fin novembre, demandent à ce que la corruption n'ait plus sa place en Bulgarie. Bonjour Nadège Ragarou.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne et politiste, directrice de recherche au CNRS, rattachée aux séries Sciences Po. D'abord, un mot d'actualité immédiate, puisque la Bulgarie s'apprête à entrer dans la zone euro. Ça sera jeudi, le 1er janvier. Comment en parle la presse bulgare? Comment prendre le pouls deux jours avant cette mue de la façon dont les Bulgares s'y préparent?
Alors, je devais d'abord vous remercier infiniment de l'opportunité d'avoir écouté Momchil Milanov et remercier Momchil Milanov pour l'hommage remarquable qu'il a rendu à l'une des plus grandes réalisatrices de cinéma bulgare, Binka Zhelyaskova, autrice du Ballon attaché, 1967, un film qui prend la métaphore d'un ballon dirigeable pour lancer un conte politique, un film qui a été interdit jusqu'en 1990. Donc cette petite parenthèse refermée et cette admiration exprimée pour, pour Momchil Milanov et Binka Zhelyaskova, la Bulgarie, en fait, depuis 1997, a vécu dans un cadre mis en place par le FMI en raison d'une crise financière majeure qui avait eu lieu, qui a donc débouché sur une situation un petit peu spécifique, qui a été le fait de fixer la monnaie, le lev, à l'époque au Deutschmark, puis à l'euro. De sorte que le passage à l'euro sur le plan économique va être différent de ce qui a été expérimenté par les autres futurs États membres de la zone euro et représente un choc économique moins important. En revanche, c'est d'un côté un moment symbolique extrêmement majeur pour marquer l'appartenance à l'Union européenne, un moment aussi de tristesse, de perte de certains symboles nationaux. et un moment de prolifération d'activités bureaucratiques et administratives, puisque jusqu'à la fin du mois de janvier, la Bulgarie fonctionnera avec deux monnaies, et donc il faudra gérer ce va-et-vient entre l'une et l'autre, et donc cette transition qui, une fois de plus, marque une étape dans un cheminement qui demeure très incertain pour le reste.
Est-ce que cette question du passage à l'euro était présente dans les grandes manifestations de novembre et début décembre, qui, in fine, ont contraint le Premier ministre à présenter sa démission, ou ça n'était absolument pas le sujet?
De fait, il y a eu une concomitance entre un moment qui pouvait donner une visibilité sur la scène européenne et internationale à la Bulgarie, et puis aussi un moment qui marquait peut-être un des tournants majeurs où se posait la question du blanchiment de l'argent, la question de l'illégalité, de la gestion des illégalismes. Comme vous le savez, les manifestations se sont cristallisées sous l'impulsion d'un parti réformateur de Kirill Petkov autour de l'adoption du budget et de l'augmentation d'un certain nombre de taxes, et à un moment où il y avait une inquiétude par rapport à des possibilités d'inflation à la faveur de l'euro. Mais l'euro y était plus un moment qu'une causalité. Comme l'a très bien dit Momchil Milanov, la thématique de la corruption à très grande échelle, de la question de la politisation des institutions, d'une dérive progressive vers un système qui est en partie autoritaire, de sa position par rapport à la Russie, ont été des enjeux également très importants. Mais c'était peut-être avant tout, et de manière tout à fait admirable, une protestation avec une très forte dimension morale. Il y a une limite à ne pas franchir, et le sentiment était que les quelques oligarques qui dirigent le pays ont atteint ce qu'on appelle souvent en Bulgarie un degré d'arrogance qui n'est plus supportable.
Les oligarques en question, c'est notamment cet oligarque Delian Pivski que tous les manifestants brandissent. Alors je ne sais plus par quel symbole ils le désignent, si c'est le cochon ou l'autre, enfin, parce qu'il y a plusieurs animaux comme ça qui sont censés représenter. D'ailleurs, Momchil Milanov, allez-y, vous alliez le dire. C'est, non, un cochon.
Oui, c'est le cochon. Oui,
c'est le cochon, donc cet oligarque qui est par ailleurs chef d'un petit parti qui représente les minorités turques et roms et qui compte 29 députés. C'est un point important dans un pays qui fonctionne par coalition. J'en profite pour dire que la Bulgarie n'a pas de problème de multipartisme, il existe. En revanche, le vote a toujours du mal à faire émerger une majorité et c'est vraiment ça qui complique la vie politique et la démocratie en Bulgarie. Dans la vie quotidienne des Bulgares, aujourd'hui, Nadège Ragourou, comment se manifeste cette incapacité d'abord à avoir une alternance réelle, mais surtout cette corruption tant dénoncée?
Alors, ce sont deux enjeux différents. Pour ce qui concerne la corruption, en fait, s'est mis en place progressivement un système double. D'un côté, à la faveur de la transition vers l'économie de marché, elle a été opérée par à-coup de façon assez complexe. Les privatisations ont été l'opportunité pour parfois des représentants des anciens services de renseignement, parfois d'autres figures liées au système de sécurité, d'accaparer une partie des ressources, de les centraliser et de devenir les responsables de ce qui était des logiques de cartélisation et parfois des logiques de monopole. Donc il y a une situation dans laquelle une dépendance très forte est instaurée entre quelques figures et des citoyens qui cherchent à pouvoir avoir accès à de l'emploi public ou privé, à pouvoir obtenir des marchés publics, à pouvoir obtenir différents types de documents. Donc c'est ce système-là d'oligarchie qui est en partie hérité du chemin vers la transition et en partie en fait un des fruits des formes de capitalisme globalisé, financiarisé, contemporain. Mais pour ce qui concerne la question du vote, qui est une question essentielle et qui se pose en Bulgarie, mais pas seulement. Nous avons un système partisan éclaté dans lequel faire émerger une majorité qui pourrait gouverner seule ou, mettons, avec un petit parti d'appoint est extrêmement complexe. Et cette fracturation du système partisan débouche sur l'obligation de produire des coalitions qui sont des coalitions paradoxales, qui mettent ensemble des formations qui se présentent comme de droite plutôt populiste, avec des formations ex-communistes de gauche, avec des formations représentant des minorités. Et je pense qu'il serait fondamental d'ailleurs de s'interroger sur l'effritement de ce qui était des échiquiers lisibles. On pourrait parler également de la France et la manière dont cet effritement débouche sur le développement de partis populistes, de figures singulières qui vont tenter par leur autorité et par la mise en place de systèmes clientélaires de pallier l'absence de représentativité politique.
Et des coalitions qui permettent aussi de la perpétuation de toujours les mêmes acteurs. D'ailleurs, le Premier ministre démissionnaire, Rosen Jeliaskov, qui était Premier ministre depuis moins d'un an, est-ce qu'il a démissionné pour signifier aux manifestants qu'il les avait entendus ou pour mieux revenir dans quelques temps ?
Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y avait des manifestations d'une telle ampleur, on avait plus de 100 000 personnes qui étaient sorties dans la rue, que du point de vue de l'acteur qui est clé, qui est Boyko Borisov, l'ancien garde du corps devenu maire de Sofia et ensuite pendant très longtemps Premier ministre, il était préférable d'accepter maintenant une démission du Premier ministre pour avoir des élections anticipées de nouveau et espérer revenir dans de meilleures conditions au pouvoir. Dans le contexte bulgare, les figures qui gouvernent et qui occupent des positions ministérielles ne sont pas toujours les plus influentes. Et en l'occurrence, les trois figures les plus influentes du champ politique actuel sont Boyko Borisov, qui n'était pas Premier ministre à ce moment-là, Delian Peevski, dont vous avez déjà parlé, et le chef de l'État, Roman Radev.
Boyko Borisov, ancien garde du corps du roi Siméon II. On n'a pas eu le temps d'expliquer que la Bulgarie ou de rappeler que la Bulgarie a été longtemps une monarchie et que Siméon II, le fils du roi mort au tout début de la Seconde Guerre mondiale, est revenu en Bulgarie en 96 et il a été élu Premier ministre en 2000. Donc Boyko Borisov, c'est un ancien Premier ministre qui contrôle depuis 2010 le pouvoir et les Premiers ministres qui s'y succèdent. C'est ce qu'on dit en Bulgarie. Donc c'est toujours un éternel pour boucler, entre guillemets, avec ce que disait Momchil Milanov tout à l'heure et ce que dit beaucoup la littérature bulgare. C'est un éternel recommencement que cette politique des grandes mobilisations, la démission du Premier ministre, et on recommence, en tout cas depuis 90.
Alors, je ne parlerai pas d'éternel recommencement. Ce sont des images qui présentent le temps comme cyclique, alors que nous sommes dans des périodes d'accélération, de transformation extrêmement importantes, non seulement en Bulgarie, mais à l'échelle européenne et dans l'ordre mondial. La configuration de 2025 ne ressemble en aucune façon à celle de 1989, qui a été un moment d'espoir, un moment d'euphorie, un moment d'inquiétude aussi, mais un moment où un ordre mondial existait, dont les institutions pensaient qu'elles étaient en mesure d'encadrer des transformations majeures. Je pense que nous ne sommes plus dans ce temps-là. En revanche, du point de vue des mobilisations bulgares, il y a quelque chose qui est assez fascinant et qui est une source d'espoir, paradoxalement. C'est que la chute du communisme en Bulgarie a fonctionné en temps. 1989-90, 1996-97, et dans ces deux moments, parce que les élections avaient été peu transparente, peu légitime, le recours à la rue a été vécu comme la source et le lieu de la légitimité politique et l'instrument et le levier de la possibilité de renforcer un cadre démocratique. Et que l'on puisse croire encore en 2025 que le recours à la rue va avoir des effets politiques, qu'il ait des effets politiques puisqu'il y a eu des missions, qu'il y ait la capacité à donner cette légitimité-là à la mobilisation sociale est quelque chose de tout à fait remarquable. Là encore, si vous comparez avec la France, il y a eu toute une succession de mobilisations qui n'ont pas eu beaucoup d'effet sur l'ordre décisionnel.
Merci beaucoup Nadej Ragarou. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes directrice de recherche au CNRS rattachée aux séries Sciences Po. On arrive à la fin de cette émission. Momchil Milanov, est-ce que le petit Stern, est-ce que votre petit personnage est en train de regarder par la fenêtre de sa chambre ces grandes manifestations et est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'il en pense ?
Oui, tout à fait. Ce que je pense, c'est que ce roman marque une transition parce que les enfants, qui sont considérés souvent comme des témoins et pas des participants, commencent effectivement à participer dans un grand processus. Et ça, pour moi, c'est très intéressant. Je pense qu'on peut extrapoler un tout petit peu et le voir se développer. Et peut-être une dernière phrase, c'est que quand j'écrivais le roman en 2020, il y avait des manifestations aussi. Maintenant, il y a de nouveau. Donc voilà, on est vraiment... Le temps s'accélère.
Le temps s'accélère, comme disait Nadej Ragarou. La nuit s'est révélée être bien trop longue et d'une certaine manière, elle se poursuit aujourd'hui encore, dit le narrateur du roman à la toute fin, le narrateur qui n'est pas le petit Stern, on ne comprend qu'à la fin qui tenait la plume. On garde ce secret pour les lecteurs à venir qui vont vous découvrir Momchil Milanov, le ministère des rêves. Votre roman a paru aux éditions Les Argonautes, traduit par Marie Vrinat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Donald Trump a lancé un avertissement au Hamas. Catherine, si les islamistes ne se désarment pas rapidement, ils en paieront le prix fort.
Le président des États-Unis semble réciter un texte écrit par Netanyahou, titre le quotidien israélien de gauche Haaretz, car depuis la résidence du milliardaire à Mar-a-Lago en Floride hier, Donald Trump a fait front commun avec le premier ministre israélien lors d'une conférence de presse notamment relayée par le quotidien Yediot Aharonot. Aucune pression exercée publiquement sur Benjamin Netanyahou, relève encore Haaretz, pour prévoir un retrait progressif de l'armée israélienne de Gaza, la mise en place d'une autorité de transition et le déploiement d'une force internationale de stabilisation dans le territoire palestinien. Cette deuxième phase du plan de paix dessiné par Washington piétine. Mais selon Israel Hayom, journal classé à droite, les contours du plan d'après pour Gaza se préciseront mi-janvier. Avec, qui sait, un rôle accru de la Turquie, diplomatique et militaire, Donald Trump réfléchit aussi à un plan d'émigration des Palestiniens en dehors de Gaza, rapporte Israel Hayom. Et loin des coulisses diplomatiques, tandis que les dirigeants du monde discutent de l'après-guerre et de notre sort, regrette Aya Al-Ratab, autrice et traductrice à Gaza, dans un édito pour Le Guardian. La jeune palestinienne décrit le quotidien des Gazaouis. Prise au piège dans un labyrinthe sans fin, l'attente de la paix, de la fin des morts et du retour à la vie. L'accès à l'eau, à l'électricité, à Internet est limité. Des pluies torrentielles et un froid glacial ont continué à s'abattre ce week-end sur l'enclave palestinienne, raconte CNN et Al Jazeera. Les tentes des déplacés ont été inondées une fois de plus et les familles qui se sont réfugiées dans les immeubles vivent sous la menace constante d'un effondrement, ajoute CNN et Le Guardian, alors que Gaza est déjà ensevelie sous 60 millions de tonnes de décombres, note Sky News, chaîne télévisée britannique. Alors, où aller ? Frappes aériennes et tirs d'artillerie se poursuivent le long de la ligne jaune, indique Sky News. Cette ligne, marquée par des blocs de ciment jaune qui séparent la bande de Gaza entre une partie est, occupée par les troupes israéliennes sur plus de la moitié du territoire, et un secteur ouest dont l'armée s'est retirée depuis le 10 octobre et la trêve avec le Hamas. Mais depuis, 400 Gazaouis ont été tués, un millier d'autres blessés, alerte Sky News.
The Israeli military has killed children as young as 8 years old on the yellow line.
L'armée israélienne a tué des enfants, dont certains âgés de seulement 8 ans, sur la ligne jaune. Sur des vidéos, décrit la journaliste de Sky News, on entend des gens crier et courir près des blocs jaunes au moment des tirs. C'est là, nous dit-on, que Zahir Nasser Shamia, 16 ans, a été tué. L'armée israélienne n'a toujours pas présenté de preuves que Zahir était impliqué dans des activités terroristes avant d'être tué sur cette ligne jaune. Les responsables israéliens qualifient cette ligne de défense avancée, tandis que les Gazaouis s'inquiètent, eux, de l'avoir avancé dans leur quartier. D'après des images satellites, Sky News explique avoir calculé que cette ligne jaune se situe désormais environ 400 mètres plus loin que le rapport officiel de l'armée israélienne. Le ministre israélien de la Défense affirme, lui, que l'armée va rester à Gaza pour prévenir toute attaque terroriste comme celle du 7 octobre. Et après tant d'effusions de sang, des années de guerre, le Proche-Orient se trouve désormais à la croisée des chemins, analyse le New York Times. Reste à savoir si un avenir meilleur peut être forgé dans la région, si l'avenir des enfants sera privilégié aux querelles du passé.
Alors pour conclure votre revue de presse internationale, Catherine Dutu, vous vouliez parler de complètement autre chose. C'est cette question que posent certains journaux ce matin, comment dépolluer l'Himalaya ?
Cette question hante le Népal, car bien au-dessus des nuages, là où flottent les drapeaux de prière et où les alpinistes poursuivent leurs rêves les plus fous, un autre héritage s'est constitué depuis des décennies, décrit le quotidien népalais Himalayan Times. Des bouteilles d'oxygène abandonnées, des tentes déchirées, des déchets alimentaires, des bouteilles plastiques jonchent l'Everest et la Annapurna. Des tonnes de déchets s'accumulent donc sous la pression touristique, résume The Kathmandu Post, et cette pollution touche aussi bien les sommets que les villes village situé en contrebas. Le plastique en particulier, qui met des siècles à se décomposer, est devenu une menace bien concrète, insiste l'Himalayan Times, pour des millions de Népalais qui dépendent des rivières prenant leur source dans l'Himalaya pour l'agriculture ou l'eau en ville, alors que la constitution au Népal garantit à chaque citoyen le droit à un environnement sain et propre. Alors depuis une dizaine d'années, les autorités demandaient à chaque alpiniste qui dépassait le camp de base situé à plus de 5000 mètres d'altitude de rapporter au moins 8 10 kilos de déchets du haut de l'Everest sous peine de perdre une caution de 4 000 $, rappelle le Kathmandu Post. Mais cela n'a pas résolu le problème des déchets, admet un responsable du tourisme au Népal, interrogé par la BBC. Un nouveau plan d'action propose désormais de transformer cette caution en une contribution non remboursable, explique le Kathmandu Post, afin de constituer un fonds permanent pour la dépollution et la conservation de l'Himalaya. Cette taxe, a priori de 4 000 $, note la BBC, entrera en vigueur après un vote du Parlement népalais.
Merci beaucoup Catherine Dutu.